France Culture.
Ma mère est entrée en maison de retraite.
Ta mère ?
Je capture rien là.
Bonjour le Book Club. J'ai lu L'Art de Bretécher et je dois dire que je me suis vraiment régalé.
T'as une mère ? Maman, mamie a une mère. Mamie, enlève ton pouce de ta bouche. Mais depuis quand t'as une mère ?
En tant que fan, j'ai vraiment trouvé mon compte dans ce livre. J'ai appris qu'on peut aborder tous les sujets de société en les plaçant dans la bouche de personnages de bande dessinée.
Mais ça me trouve ça ! Mais ça vous aurait enflé le clapet de me tenir informé ?
Et que le principal, c'est d'avoir du style.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Bretécher, il faut répéter ce nom autant de fois que possible pour le prononcer correctement d'abord et pour célébrer encore et toujours la vitalité, la modernité, le féminisme, la justesse, le grinçant, l'humour de l'œuvre de Claire Bretécher. C'est ce que font un livre et une exposition en continuant de nourrir le regard que l'on peut porter sur son travail. Il faut d'autant plus prononcer ce nom qu'elle n'a pendant plusieurs années pas signé ses œuvres. La modification progressive de cette signature est allée de pair avec son chemin d'affirmation. Comme le raconte Anne-Hélène Hogg, qui est notre invitée en compagnie de la dessinatrice Louison. Ensuite, et comme chaque semaine, nous prenons des nouvelles du livre en dehors de nos frontières, grâce à la rédaction internationale de Radio France aujourd'hui, direction l'Afrique du Sud, où le genre de la science-fiction connaît essor et succès. Et enfin, on jouera au jeu des pages musicales avec vous, à chercher et trouver de la musique dans les livres. Nous sommes ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. L'exposition signée Bretécher est visible en ce moment au musée de la bande dessinée à Angoulême. C'est jusqu'au 8 mars 2026. Anne-Hélène Hogg, vous êtes commissaire de cette exposition avec Michel Lioret, qui était l'agent historique et aussi grand ami de Claire Bretécher. Bonjour et merci d'être là.
Bonjour, merci Marie-Riche.
Et bonjour Louison.
Bonjour.
Vous êtes autrice, dessinatrice, vous aviez fait paraître un texte au lendemain de la mort de Claire Bretécher qui parlait de la place de ces BD dans l'appartement où vous avez grandi, de la manière dont cette œuvre vous a été transmise et comment elle a compté pour vous en tant qu'artiste. Vous signez une planche hommage au milieu de 22 autres planches d'autres autoristes dans cette belle exposition. C'est une planche dont je me suis inspirée pour cette introduction qui répète et qui scande ce nom. Merci beaucoup d'être là.
Merci à vous.
Et je rappelle le titre de votre dernier livre, Et le bébé alors, c'était paru aux éditions Flammarion. Le livre dont nous parlons et sur lequel nous nous appuyons vient d'arriver, comme s'il volait jusqu'à moi. C'est incroyable, non ? Ça s'appelle L'Art de Bretécher. Il est paru aux éditions d'Argo. Ça présente une quantité généreuse de documents, de dessins, d'archives. Il y a un long texte introductif que vous signez, Anne-Hélène Hogg, avec des éléments biographiques et puis des débuts d'éléments critiques qui sont repris ensuite et développés par plusieurs articles et plusieurs auteurs. Et cet ouvrage a été coordonné par Martin Zellner. Voilà à peu près pour tout ce qui nous réunit et ce qui est prétexte à parler d'elle et à parler de son travail. On va commencer par sa voix. On va écouter une archive de 1977. Elle parle de sa pratique du dessin dans l'enfance. Ces dessins d'enfance qui sont présents dans le livre L'Art de Bretécher. Vous allez peut-être nous dire pourquoi est-ce que c'est si important de regarder ces dessins d'enfance.
J'ai pas été consciente du tout d'avoir envie de faire ce métier parce que ça me paraissait inaccessible et puis je voyais pas du tout comment on pouvait y arriver. Mais j'ai toujours dessiné à partir de je sais pas, 3 ans. Je dessinais et sous forme de bande dessinée, ce qui est assez bizarre. Ça tient au fait que j'en lisais sûrement beaucoup. Et quand j'avais, je sais pas, 8 ans, 9 ans, 12 ans, 14 ans, je faisais toujours des bandes dessinées que je lisais à mes petites copines.
Oui, c'était la forme qui vous permettait de vous extérioriser, la forme d'art.
Oui, parce que j'aime bien raconter des histoires et j'adore le dessin. Alors.
Et quels étaient vos auteurs préférés ? Peut-être quand même qui ont eu une influence sur vous en dehors des auteurs des bandes dessinées.
Honnêtement, je ne m'en rappelle pas du tout. Je sais les écrivains que j'aime maintenant, mais...
Dites-moi les noms des écrivains.
Ah, moi, j'ai une passion pour Marcel Aimé, alors une passion folle. Mais sinon, c'est des choses isolées. Mais sinon, non, je lisais beaucoup de bandes dessinées étant gosse. Et puis, la gamme de lectures possibles quand j'étais jeune était assez restreinte. Et c'était la Bibliothèque Verte, avant la semaine de Suzette, après la Bibliothèque Verte, et puis, etc. Et puis après Cronin, et puis, vous voyez, j'avais pas le choix. Moi, les livres de poche ont commencé, je devais avoir 15-16 ans, vous voyez.
La voix de Claire Bretécher dans un entretien de 1977 au micro de Martine de Breteuil sur France Culture. Pourquoi est-ce que c'est si intéressant, important d'écouter Claire Bretécher parler de sa pratique du dessin dans l'enfance et pourquoi dans le livre L'Art de Bretécher, ils sont si présents et assez impressionnants en effet. Anne-Hélène Hogg.
D'abord, Claire Bretéché est toujours sur la réserve quand elle parle. C'est-à-dire que là, elle semble raconter d'une manière assez fluide, mais il y a beaucoup de choses qu'elle ne dit pas. Et elle ne parle pas de Franquin, par exemple, qui était dans Spirou et que son père achetait... Son père achetait Spirou donc toutes les semaines et elle a eu un grand amour disons pour le dessin de Franquin, d'où le plaisir d'ailleurs de le retrouver par la suite dans chez Spirou quand elle y a travaillé ou dans d'autres lieux. Elle a assez extraordinairement consacré énormément de temps au dessin dans sa vie. Et notamment dans son enfance. D'abord parce que ça rigolait pas toujours à la maison, et que raconter des histoires était une façon peut-être de tromper aussi la solitude qu'ont beaucoup d'auteurs et qu'elle avait. Et ça amusait les filles de son école aussi. Elle était dans une école catholique, c'était une école de filles, c'était assez rigide. Bon, pouvoir raconter, imaginer des histoires, il y avait ça, il y avait la lecture. Et donc imiter, en quelque sorte, elle commence par l'imitation. Et elle a déployé très vite un sens très particulier de l'organisation du récit. Qui n'est pas toujours facile à trouver chez des enfants jeunes.
Quand on dit jeune, on dit quoi? Parce que donc elle
elle a commencé à 5 ans. Ouais, oui, voilà. Elle a commencé à dessiner, elle avait 5 ans, mais ça on peut dire que c'est un peu du gribouillis comme beaucoup, mais enfin très vite ça s'est structuré puisqu'elle avait des modèles et donc son idée c'était d'imiter les histoires qu'elle lisait, qu'elle ne finissait d'ailleurs jamais. Elle le dit elle-même dans une interview. Donc, son rapport au dessin a été vital, en réalité, parce que ça lui permettait d'être elle-même, de trouver son espace à elle. Et si elle a décidé, d'ailleurs, de se construire par là, elle dit non, j'y ai jamais pensé tout. Oui, elle n'osait pas penser qu'elle pouvait le faire, mais elle a quand même pensé qu'elle pouvait être une illustratrice. Mmh. C'est-à-dire qu'elle n'a pas pensé qu'elle pouvait devenir une autrice de bande dessinée, mais elle pouvait faire ce que beaucoup de femmes faisaient, qui était l'illustration. Et puis, elle avait illustré le journal des Guides de France, dont elle faisait partie. Beaucoup de dessinateurs ont commencé dans les journaux d'école ou les journaux des mouvements de jeunesse auxquels ils appartenaient. Donc, on peut dire que les premières expériences se font autour de ça, c'est-à-dire avec des thèmes donnés. C'est le cas de Goscinny, c'est le cas d'Eisner et de beaucoup d'autres. Elle en fait partie. Marcel Gottlieb, puisqu'il, lui, il n'a pas été longtemps à l'école. Hein, donc, c'était encore une autre histoire. Mais on peut vraiment dire que Claire Bretéché va trouver dans le dessin un espace de liberté qui lui permet d'affiner aussi son sens de la langue.
Et alors quand vous dites ça s'organise assez rapidement, ça s'organise dans la page sous la forme de bande dessinée, qu'est-ce qu'on trouve dans ces dessins d'enfance que vous reproduisez notamment dans ce livre collectif?
Oui, elle fait des histoires construites ou elle essaye de faire des histoires construites.
Avec des personnages.
Avec des cases, voilà, en imitant ce qu'elle voit dans la semaine de Suzette. Bon, elle n'aimait pas du tout Bécassine par exemple, mais ce qu'elle voyait dans Spirou, ce qu'elle voyait dans la bande dessinée pour enfants, dans la bande dessinée jeunesse, en fait, qui était ce qui se lisait dans les milieux catholiques aussi, dans les éditions des journaux édités par Bayer Press. Hein. Et c'est pour ça qu'elle a d'abord travaillé pour Bayer Press, pour Le Pèlerin, pour ensuite pour Cor, et on doit dire une chose, c'est que en fait la presse catholique avait donné une très grande place à l'image. Depuis le 19e siècle déjà, avec tous les mauvais côtés que ça peut aussi avoir, etc. Donc elle était dans cette tradition catholique où l'image n'était pas crainte, mais l'image pouvait permettre de raconter la vie des saints, pouvait permettre de raconter les histoires moralistes, etc., etc. Donc on a par exemple toutes les éditions d'imagerie d'Épinal, en fait, qui sont des imageries souvent catholiques, les hagiographies et tout ça. Donc elle avait ça en permanence autour d'elle. Ça ne veut pas dire qu'elle était une aficionado de ça, mais en tout cas,
elle est imprégnée de ça,
le rapport à l'image. Je vous rappelle qu'on donnait encore des images de saints, etc., pour récompenser les élèves.
Des bons comportements.
Voilà.
Louison, ça fait quoi pour vous qui avez décrit donc dans ce texte-là, ce texte biographique, au moment de la mort de Claire Bretéché, vous décrivez enfant en train de feuilleter ces bandes dessinées. Ça vous fait quoi de voir ces bandes dessinées d'enfance dessinées par Claire Bretéché?
Ce qui est toujours intéressant, c'est que tous les enfants dessinent, toujours. Tous les petits, même tout petit, avec le doigt dans la purée, ou tout le petit suisse. Tous les enfants ont le réflexe en...
Le tracé, quoi.
Le tracé. Et Après, pour beaucoup, ça s'abandonne. Ça, et pour certains, le dessin reste. Et pour encore une plus petite partie de ces gens-là, dont je fais partie avec beaucoup de chance, la narration et le langage par le dessin restent et structurent. Sans qu'on soit capable à 10-15 ans de se dire « ça va être mon métier », mais on se rend compte qu'on a besoin et qu'on est capable de s'exprimer que... en dessinant quelque chose, en lui faisant dire quelque chose à son dessin. Moi, j'arrivais pas en prépa, par exemple, à faire un dessin qui ne voulait rien dire. Et je me faisais engueuler toute l'année parce que j'arrivais pas à faire un dessin pour faire un dessin. Il fallait qu'il y ait une histoire. Et bon, ça devient finalement un métier, donc tant mieux. Mais en tout cas, c'est vrai que de voir ce qu'il a structuré et d'où elle part, on comprend qu'en fait, il y a une sorte de socle commun à tout dessinateur ou dessinatrice de bande dessinée, qui est l'incapacité à faire autrement que de raconter par le dessin. Et moi, petite, j'avais... je faisais pipi au lit, donc j'allais chez la psy, parce que mes parents, qui étaient eux-mêmes psy, se trouvaient que c'était un peu inquiétant que je fasse pipi au lit, donc voulaient mieux vérifier. Et je ne passais mon temps, parce qu'elle avait des feutres superbes sur une grande
la
table
psy,
en verre. Oui, oui. Et je passais mon temps à prendre des feuilles A4 et à dessiner mes rêves, ce que j'avais fait dans la semaine. Enfin, et là où un enfant lambda faisait une petite pochette par année, moi j'avais des chemises cartonnées tous les trimestres, dont mes parents savaient plus quoi foutre à la fin, mais parce que j'avais besoin que ça passe par le dessin et par ce langage autre.
Là, on voit Nouvelles aventures de Yanou et Clairon, donc ça fait partie d'un document qui existe dans l'art de Brotéché. Ça date de 1955, elle a donc 15 ans, c'est sa toute première bande dessinée. Il y a vraiment une structuration. Vous dites, c'est présenté comme
oui,
ça.
Oui, c'est la première terminée. On va
terminée,
dire.
Oui, parce que vous dites qu'elle a beaucoup pas terminé.
Oui, d'autres.
Mais c'est très impressionnant. Peut-être, bon, je suis pas tout à fait spécialiste de qu'est-ce qu'on est capable de faire en bande dessinée quand on a 15 ans. La structure, la case, le rapport au rythme, les bulles, l'écriture, etc. C'est quand même extraordinairement abouti, Anne-Hélène Hogg.
Oui, c'est très abouti. Alors d'abord, Yanou, c'est sa sœur, Yann. Et Clairon, c'est Claire. Alors, je ne savais pas ça, d'ailleurs, au départ, quand on a fait le livre. C'est la nièce, c'est Clémence, en fait, la nièce de Claire Bretéché qui m'a raconté que cette histoire-là, c'était vraiment l'histoire de sa mère et de sa tante. Donc. Mais oui... Pourquoi on structure un récit? Je pense que d'abord on a des modèles. J'insiste vraiment là-dessus parce que elle sort, elle est dans un milieu où l'éducation, la lecture de bons livres, etc. Pour avoir suivi le même chemin qu'elle, je peux vous dire que la bonne littérature jeunesse, ça compte énormément dans ce qu'on considère être la formation à la culture, à l'éducation. Donc, qu'on soit chez les bonnes sœurs ou qu'on soit chez des parents qui sont professeurs, avant tout, il faut lire. Et donc, très vite, la valorisation en fait de l'écriture est énorme. La valorisation du récit et du récit structuré, du récit qui fait sens. Donc je pense qu'elle avait cette exigence parce que c'est venu assez naturellement de par l'environnement dans lequel elle se trouvait, puis surtout parce que il fallait que les gens autour d'elle, en fait, trouvent un sens à son histoire. C'est-à-dire que ça ne marchait que si elle arrivait à finir. Je pense que il y a des gens qui dessinent dans la buée des vitres, par exemple, dans les salles de classe, qui dessinent un peu
sur
n'importe
les tables,
où, dans les toilettes, sur les murs, etc. Puis il y a ceux qui prennent un papier et qui commencent à penser une histoire. Et je pense que elle s'est très clairement décidé pour le dessin, mais je pense qu'il ne faut absolument pas oublier à quel point le texte a été important.
Ah bah oui, parce que l'une et l'autre, vous parlez d'écriture, vous parlez de récit, vous parlez de raconter une histoire, et puis on y viendra. Vous parlez aussi, Louison, d'une langue bretéchée et d'une façon comme ça de rendre compte et d'inventer le langage et un grand art du dialogue, évidemment. On fait un petit saut dans sa biographie. Je le disais, 1955, elle a 15 ans, elle dit qu'elle a eu son bac à 15 ans. Souvent, il y a une parenthèse qui est rajoutée, genre « dit-elle ». Bon, voilà, il y a peut-être un trouble, Anne-Hélène Hogg.
Je ne suis pas sûre du tout qu'elle ait eu son bac à 15 ans, mais après tout, il faudrait rechercher dans les archives départementales du rectorat pour le savoir et le vérifier, ou peut-être qu'on a le diplôme du bac quelque part dans les archives familiales, je ne sais pas.
Et alors après, on fait un saut, tout début des années 60, puis milieu des années 60, 64-68, elle parvient à placer ses dessins dans quelques journaux, et à partir de 1964, elle publie dans Record, un magazine mensuel novateur créé en 1962 à destination des jeunes gens, donc 11, 16 ans et plus. Et elle travaille d'abord l'illustration, ce serait ça.
Elle est d'abord illustratrice. D'ailleurs, c'est comme ça qu'elle essaye de placer ses dessins, parce qu'il faut qu'elle mange quand même. C'est la réalité, c'est qu'il faut qu'elle paye son loyer, il faut qu'elle mange. Et parce qu'elle est montée à 19 ans à Paris, elle a arrêté l'école des Beaux-Arts. Donc elle se retrouve vraiment, c'est une aventurière. Hein. Elle arrive seule à Paris avec quelques contacts qui sont sont ceux de son éducation. Voilà, elle connaît personne dans ce milieu-là et c'est des amis des guides de France qui, en fait, l'une travaille chez Bayer Press et qui va lui trouver comme ça des contrats, des demandes pour des illustrations. Donc, elle commence petit, elle commence vraiment très petit. Mais comme beaucoup de femmes qui ont fait de l'illustration, on considérait que, bon, on peut, dans les, surtout chez, dans le truc jeunesse, mais ça vaut aussi pour d'autres magazines, de la jeunesse dédiée aux filles, surtout. Mmh. En fait, on cherche des femmes illustratrices et de temps en temps, on a aussi des femmes scénaristes.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de son dessin à ce moment-là? Je suis en train de feuilleter.
Eh bien, elle est très douée déjà, on le voit. Elle a une maîtrise de l'ancrage,
ouais,
elle a une maîtrise de l'expression.
67, vous c'est avez record, par exemple,
et puis, mais toujours, la question des modèles est toujours là, c'est-à-dire qu'on a tout ce qui s'est fait avant. Elle est vraiment
on
imprégnée
a au sens
d'une
où
histoire
on
du
sent
dessin.
On sent son inspiration, c'est ça?
On sent là où elle est allée chercher, là où son regard s'est créé une bibliothèque, si vous voulez. Une sorte d'archive visuelle. Elle a très vite pigé comment se faisaient les choses. Et si vous regardez, par exemple...
Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de langage encore complètement, parfaitement singulier de Claire Bretéche à ce moment-là. Ça voudrait dire qu'il est encore très, très pétri de ce qu'elle a vu.
Elle est encore assez... Pardon.
Non, mais en fait, c'est là où on voit... D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle ne veut pas être illustratrice. C'est qu'en fait, l'illustration est forcément frustrante pour elle, puisque les dessins sont déjà superbes, parce qu'on voit ce que va être son écriture graphique, mais il manque encore justement...
Le verbe.
Et c'est là où on n'a qu'une seule envie, c'est que la coquille s'ouvre vraiment et qu'elle sorte. Mais parce que dans les planches, ce qui arrivera après... le texte vient appuyer l'image, l'image vient appuyer le texte. Donc il y a une sorte d'osmose parfaite qui là est forcément un peu empêchée par le fait que c'est de l'illustration pure et que l'illustration, c'est pour ça que je déteste quand on dit que je suis illustratrice. Et je fais non, ce n'est pas mon métier.
Mais on embrasse tous les illustrateurs.
Je les adore, mais c'est vraiment pas mon métier. Et parce que justement, je trouve que c'est très dur de se passer de son propre langage et d'être dans le langage de quelqu'un d'autre. C'est un exercice qu'il faut faire de temps en temps, mais qui est vraiment très frustrant, je trouve. Et là, finalement, c'est pour ça peut-être qu'elle a fait les frustrer, quelque part.
On va en parler.
En tout cas, il y a une frustration qui est peut-être née à ce moment-là. Mais en tout cas, oui, ça, on sent qu'elle y est presque, que ça frémit.
On va faire aussi un petit saut dans le temps et tout de suite, en 1989, c'est Marcel Gottlieb qui parle de Claire Bretéché. Et c'est un peu plus tard, il parle de son arrivée dans le monde des dessinateurs de BD.
Bretéché, oui. Elle y tient, elle a raison. Je me souviens plus bien, c'était au début de Pilote. Moi, j'y suis entré en 65. Et elle a dû y entrer, je sais pas, vers 67, par là. Je la connaissais de réputation, parce que, comme c'était, je crois, la seule femme qui faisait de la BD à l'époque, elle était connue de toute la profession. Et ma première impression, non, je me souviens pas très bien. Bon, j'ai dû me dire, elle est drôlement jolie, certainement. Hein. Et après coup, j'ai dû dire, elle dessine bien, elle fait des bandes dessinées intéressantes, et ça ne va pas lui plaire parce qu'elle aurait sûrement préféré le contraire. Elle faisait tout son possible pour qu'on la considère comme un mec, comme un homme qui dessine, comme un membre de l'équipe. Et je me souviens très bien que ça l'agaçait, par exemple, quand elle arrivait pour s'installer avec nous et que l'un d'entre nous se levait pour lui céder sa place, par exemple. Alors, elle le traitait de phallocrate macho. Cela dit, quand personne se levait, elle hurlait qu'on manquait de courtoisie et de galanterie. C'était très dur avec elle. Enfin non, je plaisante, c'était pas dur du tout.
1989, on entend une tendresse dans la voix de Gottlieb qui parle de Claire Bretéché et qui dit d'elle, qui parle surtout de la place qu'elle occupait en tant que femme dans ce milieu très masculin d'auteur de bande dessinée. Dans le texte que vous signez pour l'art de Bretéché, Anne-Hélène Hogg, vous parlez de l'affirmation de Bretéché par sa signature. Ça me semble intéressant de partir de ce que dit Gottlieb pour s'approcher de ce par quoi elle signait ses œuvres ou ne signait pas dans un premier temps, puis ensuite juste son nom, puis son nom, son prénom. Qu'est-ce que ça raconte au fond?
Oui, alors je dois d'abord préciser que Marcel Gottlieb travaillait aussi à Record. Il livrait aussi des bandes dessinées, Frédéric Rosebif par exemple, chez Record, dans la période où Claire Bretéché elle-même donnait ses contributions, y compris dans les derniers temps.
C'est-à-dire milieu des années 60, fin des années 60?
Oui, c'est-à-dire 64-65, elle est déjà, en 64, par exemple, elle va faire les aventures du facteur Rhésus pour Los Amoal avec René Goscinny. Alors, comment ça se tricote tout ça? C'est parce que René Goscinny publiait Is No Good avec Tabari, publiait Is No Good chez Record. Donc, elle fait de l'illustration, certes, pendant un certain nombre d'années chez Record.
Mais elle fréquente.
Et oui, et puis elle a aussi connu Mandrika à cette période. Pratiquement, c'est un des premiers dessins qu'elle a illustré, un des premiers textes qu'elle a co-illustré avec Mandrika. Donc, en fait, Record était aussi un lieu où se retrouvaient où se croisaient les auteurs. Alors, elle fait le facteur Rhésus de mai à juillet 64 pour Los Amoal, et je dois dire que ça a dû la marquer parce que par la suite, ce qu'elle fera, c'est évidemment très inspiré de l'esprit de Pierre Dac, dont Goscinny lui-même était très très amoureux. En fait, de cette façon de parler du non-sens, enfin de l'absurde et du retournement des mots, etc. La poésie, une sorte de poésie comme ça, entre le surréalisme et le loufoque. Et on peut dire que Claire Bretéché, elle piaffe d'impatience en fait de passer à ça, et on voit bien, même déjà dans ses illustrations, que les comiques de situation sont au départ potaches, mais qu'elle essaye de complexifier les choses. Ce n'est pas, elle n'a pas envie de faire le truc qui fait rigoler tout le monde. C'est pas ça, c'est pas le truc premier degré. Ha ha ha. Elle est vraiment, elle a besoin d'associer ça à une certaine forme de pas de critique, mais d'observation fine qu'elle a développée depuis qu'elle est gamine, parce qu'on n'est pas impunément dans une école religieuse sans remarquer les énormes contradictions, les caractères, les personnalités, etc. On est marqué par les personnages, et donc elle avait un peu ce qu'avait Jane Austen, c'est-à-dire un sens incroyable de repérer les caractères, hein, ce qu'on appelle, ce que La Bruyère appelait les caractères, en fait, c'est ça, elle est là-dedans. Son dessin va en montrer le contre-coup. Elle peut pas au début, tout de suite, il faut qu'elle découvre ce dont elle est capable, et c'est ce que Record va lui permettre de faire, et d'autres journaux comme Le Pèlerin. Mais quand elle passe à Tintin, par exemple, quand elle vient au journal Tintin, ou quand elle va passer chez Spirou, on la prend quand même beaucoup plus au sérieux. Et d'ailleurs, c'est parce qu'elle fera la première bande dessinée ses premières bandes dessinées dans ses journaux que Record va lui proposer de faire des bandes dessinées, alors qu'il ne lui demandait que des illustrations. Pour Record, elle n'avait pas... D'abord, son nom ne se voyait pas au départ.
Mais je pense que voilà, c'est peut-être intéressant de s'arrêter sur ce que vous écrivez, l'observation fine que vous faites de sa signature. Je vous écoute.
Alors, elle signe d'abord Bretéché, parce que précisément, et Marcel Gottlieb a raison quand il dit qu'elle voulait être un homme, parce qu'elle ne voulait pas qu'on fasse la différence entre elle et les auteurs masculins.
Ça ne veut pas forcément dire vouloir être un homme.
Alors... Non, elle voulait pas être un homme, mais elle ne voulait pas être classée comme femme. Elle ne voulait pas qu'on puisse la rentrer dans une catégorie.
Donc, elle ne voulait pas être infériorisée.
Oui, je pense aussi peut-être miniardisée, enfin quelque chose comme ça. En tout cas, au départ, elle ne signe pas. On lui demande pas de signer, et c'est très difficile si vous n'avez pas la base de données BD oubliée pour repérer ce qu'elle a fait qui n'est pas signé, et si vous n'avez pas les originaux de certains dessins, vous ne savez pas que c'est elle qui les a fait. Donc, quand elle commence à signer, elle va signer Claire Bretéché gentiment avec une petite écriture ronde, bien manuscrite, et puis. Elle va signer Bretéché pour être un
neutre
exactement. Ouais, voilà. Et merci Louison.
J'ai fait pareil, donc forcément là,
oui,
ça m'intéresse.
Mais vous n'êtes pas la seule. C'est justement ça qui est intéressant, c'est que les femmes qui commencent dans un certain métier d'écriture où elles ne sont pas majoritaire, on va dire, où on n'a pas l'habitude de les voir.
Et considérées.
Elles prennent des
stratégies de contournement.
Exactement. elles se déguisent. Ouais. Elles se déguisent, elles deviennent des hommes. George Sand. Daniel Stern pour
non, mais c'est là où moi je vous interrogeais sur quand vous dites et quand Gottlieb dit elle voulait être un homme. Moi, quand j'ai ensuite lu le travail, alors pas avec la même finesse et connaissance que vous, mais j'ai pas l'impression qu'elle refuse l'idée d'être une femme. J'ai l'impression qu'elle pense le fait d'être une femme, qu'il y a quelque chose d'être une femme qui l'intéresse. C'est plutôt être considérée comme à l'époque on considérait les femmes, qu'elle ne veut pas.
Et peut-être être aussi la seule femme, c'est ça qui n'est pas très agréable dans un métier, c'est d'être la seule, imaginez dans un sous-marin, il y a 180 types et vous êtes la seule nana, forcément on vous traite un peu différemment. Donc moi c'est pour ça que je disais neutre, c'est qu'en fait c'est pas d'être traité comme un homme, c'est juste d'être traité comme tout le monde.
Oui, enfin, elle a quand même quelque chose, elle est toujours en pantalon, Au début, elle avait, elle ressemblait un peu à Françoise Hardy ou à France Gall. Elle avait comme ça ses coiffures avec la frange. Et puis, elle va se masculiniser quand même un petit peu dans son apparence. Pratiquement jamais de maquillage ou très peu. Des pantalons, toujours tirés à quatre épingles. Attention, elle était toujours impeccable. Et je pense qu'elle voulait qu'on ne voit pas de différence entre elle et les autres. Elle ne voulait pas se distinguer en fait de l'équipe, en quelque sorte, de la tribu pilote, si on peut parler comme ça, parce que c'est là où vraiment elle rentre dans un groupe où il n'y a que des hommes. Et
dans le sous-marin.
Oui, en même temps, elle est quand même très... je veux dire, ils en sont tous dingues, quand même.
Il faut dire les choses. J'ai d'abord commencé par la trouver super jolie.
Oui, mais ils l'ont tous trouvée jolie. Et ils ont tous trouvé qu'ils ont tous été gentils avec elle au départ. Après, je pense que son talent a fait le reste. C'est-à-dire qu'elle, quand même, elle attaque à pilote avec un truc qui s'appelle cellulite. Donc, pour les garçons qui sont autour d'elle, c'est un ovni. C'est un ovni complet. Et du coup, l'originalité de Claire Bretéché la pose, l'affirme dans ce milieu d'hommes parce qu'elle vient proposer des choses qu'ils n'avaient jamais vues de la part d'une femme ou même entre eux avant.
On va continuer à parler d'elle et à parler de son travail. Claire Bretéché qui écoutait volontiers la radio, qui adorait la radio FIP. Elle était capable de passer un coup de fil au Standard quand le Standard renseignait les auditeurs et auditrices en direct sur les titres qui étaient joués. Alors on va rendre hommage à cet amour de la radio et à FIP en diffusant un disque qui fait partie de la sélection FIP du mois de mai 2025. Le disque s'appelle Angie, l'artiste s'appelle Spiltab, elle est franco-coréenne, installée à Los Angeles et le titre qu'on écoute c'est Pink Lemonade.
Culture, le book club, Marie Richeux.
Et un book club affalé dans les canapés, poils, cellulite et cernes, mais aussi belles chemises et jeans bien coupés. Un book club consacré à Claire Bretéché et son travail à l'occasion de la parution d'un grand livre, L'Arbre de Bretéché, chez Dargaud. Elle a tenu d'une exposition en ce moment et jusqu'au 8 mars 2026 au musée de la bande dessinée à Angoulême. L'idée est de se concentrer maintenant sur ce qu'on peut dire de son travail, notamment via les articles de ce livre-là. Mais peut-être on peut, puisqu'on a égrené les dates, aller vers une série importante qui s'appelle Les Frustrés. Et pour ce faire, on va écouter la voix d'un auditeur. Il s'appelle Terreur Graphique, lui-même auteur de Ces gens-là, paru dans Libération. Et il vous adresse à l'une et à l'autre une question sur son observation de la société.
Bonjour le Book Club, bonjour Anne-Hélène Hoog. J'ai lu L'Art de Bretéché. Ça m'a rappelé que je dois beaucoup à Claire Bretéché. C'est un peu à cause d'elle que je suis devenu dessinateur de BD de presse. L'art du dialogue, en fait, j'ai vraiment beaucoup appris en lisant Claire Bretéché. Elle m'a appris à regarder la société et à garder le contact avec l'époque. Je dois vraiment ma carrière. Personnellement, j'essaie de relire l'œuvre de Claire Bretéché une fois par an. Je trouve toujours ça d'une extrême modernité. Alors, une question à Nélène Houg. En quoi la lecture des frustrés peut nous aider à affronter l'époque? Merci pour votre réponse.
Et merci à vous, Terreur Graphique, Anenen Houg. Est-ce que vous pouvez d'abord nous dire ce que c'est que les frustrés? Et pourquoi est-ce que c'est un temps important dans ce parcours et dans l'œuvre de Claire Bretéché?
Oui, lorsque Bretéché commence Les Frustrés, en fait, elle le fait pour Le Nouvel Observateur, dans lequel elle vient de commencer. Jean Daniel l'a fait venir au Nouvel Observateur, c'est en 1973, et elle va commencer cette série qui fait suite à ce qu'elle faisait dans Pilote, qu'elle a publié par la suite comme Salade de saison, c'était la page, d'abord les actualités, ensuite Salade de saison dans Pilote, et elle intensifie, en fait, son traitement de la caricature et de la satire sociale dans le Nouvel Obs, avec un tropisme déclaré, reconnu pour la caricature de la gauche. C'est-à-dire qu'elle regarde les gens de gauche, elle regarde sont en train de devenir les hippies, tous ceux qui ont fait 68, etc., les libéraux, les révolutionnaires, enfin tous ceux qui faisaient des libertaires, pardon, pas les libéraux, les libertaires, les révolutionnaires, tous ceux qui avaient fait dans les années 60 et dans le début des années 70 les belles heures, en fait, de la révolution.
Et qui s'envoient des citations de lecture à la figure sur les canapés en fumant des clopes.
Et qui, en fait, ne cessent de faire référence à leur savoir. Hein. C'est d'ailleurs tout ce qui a rendu ce mouvement aussi peu crédible aux yeux de la classe ouvrière. C'était ça. Alors elle prend pas le regard de la classe ouvrière. Elle se contente de faire ce qu'elle faisait depuis qu'elle était dans une école catholique. C'est-à-dire qu'elle remarque tous les trucs qui collent pas. Tous les trucs qui ne vont pas chez les gens, tous les contradictions entre le faire et le dire, les grandes déclarations, les professions de foi, et puis les petites choses, les mesquineries, les jalousies, l'avarice, bien entendu, les étroitesses, en fait.
Le sexisme,
mais elle le fait pas en se disant c'est le sexisme, elle le fait en se disant
enfin,
tous ces gens
qui
nous racontent.
Enfin, nous, on lit en disant c'est du sexisme.
Mais vous savez, dans les amphithéâtres en 68, les garçons disaient aux filles, vous les ménagères, taisez-vous.
Voilà. C'est du sexisme.
Donc, oui, mais c'est pas, à l'époque, elle ne nomme pas ça du sexisme.
Oui. Mais on peut le faire.
Ce qu'elle voit, c'est en fait la grande difficulté qu'ont les femmes auteurs ou les femmes artistes ou les intellectuelles femmes ou les femmes même en général à négocier sans arrêt un quotidien pour un droit à pouvoir tout simplement être ce qu'elles ont envie d'être et faire les choses comme elles ont envie de les faire sans être patronisées par patronized, on dit en anglais, hein, pour être par la figure patriarcale. Donc ça, c'est quelque chose qu'elle ressent, mais il ne faut pas croire qu'elle se sentait particulièrement en minorité parce qu'elle était une fille chez Pilote. À la fin, elle était un des gars, on peut dire comme ça. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que pour elle, elle n'a pas été maltraitée.
Non, mais on peut ne pas être maltraitée, mais être tout à fait capable d'observer les inégalités et le sexisme et la bêtise patriarcale.
Mais les frustrés, les frustrés ne sont pas sur les gens de son âge. Les frustrés parlent
sur la génération
d'avant, des mères. De tous des parents, des dissonances, de ces gens qui pensent tout savoir et tout avoir compris. Je vous rappelle quand même que la majorité, c'était 21 ans pendant très longtemps, et que elle, quand elle a quitté ses parents, elle était mineure. Donc l'émancipation des femmes, c'est-à-dire de la sienne propre, hein, la sienne propre d'abord, ça c'est quelque chose qui est un procédé de longue haleine. Je rappelle qu'on faisait le livret de famille, tout devait être signé par l'homme. Hein, la mère n'avait pas d'autorité parentale, a priori, dans le couple. Donc, tout ça, c'est des choses qu'elle a parfaitement bien connues. Et en fait, elle pousse, comme beaucoup de gens, de femmes de son époque, elle pousse les limites, en fait, du rapport des sexes, d'abord en voulant avoir sa propre vie personnelle, qu'elle a jusqu'au bout gardée extrêmement privée. Hein, elle ne s'est pas épanchée, elle ne s'est pas racontée personnellement sur sa vie privée. En plus de ça, elle se protégeait beaucoup. Et en plus de ça, ce qui l'intéressait, c'était d'analyser les situations des différences, hein, ce qui était vraiment les injustices, les différences de traitement.
Et les dissonances. Dans les dialogues, on entend aussi là où ça dissonne, y compris entre les femmes. On était interrogé par Terreur Graphique, Louison, sur cette série-là des frustrés et pourquoi est-ce que c'est un bon outil pour regarder la société. On cite souvent Roland Barthes qui dit d'elle « c'est la meilleure sociologue de 1976 » et elle a une capacité d'observation incroyable par ses dessins. En quoi la régularité de la publication et aussi la contrainte de cette régularité fait des frustrés un bon endroit d'observation de la société ?
D'abord, je pense que Terreur a raison de relire Les Frustrés tous les ans. Il y a des gens qui lisent Proust tous les ans, mais c'est une autre version, mais c'est un très bon exercice. Je pense que, de toute façon, là je vais enfoncer une porte ouverte, mais tout dessinateur est observateur, et qu'on est dans des sociétés où il suffit de rester dans une rame de métro pendant 20 minutes pour entendre déjà 4 conneries qu'on a envie de redessiner, et 4 incohérences en fait, 4 choses de mauvaise foi, 4 comportements où on se dit « l'humain est bien là, mais ça serait encore mieux s'il arrivait sous mes doigts, sous mon crayon, pour bien montrer comme ça en pleine lumière ce que je viens d'observer, comme ça, du coin d'une oreille ». Et c'est sûr que les frustrés en ça, et peut-être aussi parce que cette obligation de la régularité et cet exercice qui devient vraiment une gymnastique de quelle connerie je vais raconter sur l'humanité cette semaine, fait qu'elle avait déjà un regard très précis, vif, et effectivement depuis l'enfance, comme vous le rappeliez, d'observer les incohérences et les mauvaises foi, sans mauvais jeu de mots. et la régularité, le fait de le montrer aux autres toutes les semaines dans l'Obs, est devenu vraiment, on parlait tout à l'heure des langages chez Bretéché, les frustrés est un langage dans le langage aussi. Parce que,
en quoi justement? Parce que vous parlez aussi d'un parler Bretéché, Louison, et on imagine que c'est un parler à la fois langagé, mais aussi un parler graphique. En quoi est-ce que c'est un langage dans le langage?
Il y a une, comme dans tout ce qu'elle fait de toute façon, il y a une liberté, une capacité à être totalement dans les clous, mais complètement en dehors aussi. C'est-à-dire que une planche de Bretéché, c'est il y a un nombre de cases, ça dépasse pas, c'est très voilà, et à la fois ça déborde de tous les côtés, y compris dans l'orthographe des mots. Moi, ce que je dis, c'est que je continue à écrire t-shirt, T-I-C-H-E-U-R-T, parce que je l'ai lu une fois dans un Agrippine comme ça, et je trouve ça très bien, et j'envoie des textos avec marqué qu'est-ce tu en un mot. Enfin, je trouve que s'affranchir, tout en sachant très bien comment on l'écrit d'habitude, mais s'affranchir de ça et se permettre de dire aussi, je dessine des dégaines, je dessine des langages, je dessine des gens tels que moi je les vois, dans mon regard. Enfin, c'est un exemple pour toutes les générations. Terreur Graphique en est un. Enfin, on est des dizaines derrière à s'être dit, on peut faire comme ça.
On entend aussi dans un article passionnant qui est signé par Jeanne Puchol et qu'on trouve dans L'Art de Bretéché, ce grand livre dont je tourne les pages, cette observation de la répétition et du décalage, quelque chose qui pourrait paraître comme ça si on regarde très 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 vite un dessin répétitif et qu'on lit comme une itération graphique. Est-ce que vous pouvez développer cette idée, Anne-Hélène Hogg, c'est-à-dire un dessin qui bouge à peine, mais en fait quand on les superpose, il y a un gribouillis qui montre du mouvement à l'état pur, et l'idée que c'est par ce micro-mouvement, à l'observation de ce micro-mouvement, que naît l'observation la plus fine, la drôlerie, l'humour, la finesse.
Oui, d'abord, elle a, pour ce type-là de dessin, elle est totalement dans la ligne de Copy ou de Jules Pfeiffer. C'est-à-dire qu'effectivement, la duplication...
Il y a une planche de Pfeiffer qui est citée, qui est incroyable. Oui, c'est un dialogue entre un homme et une femme, et qui dit mi, le mec dit mi, 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 et la femme, à un moment donné, dit aïe, et l'homme baille.
Oui, c'est elle a repéré ça, et Pfeiffer était précisément, et c'est là où, pour moi, ils sont pratiquement des jumeaux, hein, pas de la même génération, mais comme des jumeaux. Et Copy était pareil. Copy était capable de prendre la même image dans La Dame assise, par exemple, ce qu'on voit dans le Guide du savoir-vivre de qu'elle publie dans L'Écho des savanes, Claire Bretéché publie dans L'Écho des savanes. On a vraiment cette façon de dire, en fait, tout se passe par les mots. Et la posture, et cette posture, elle est tellement présente, elle est tellement lourde, elle est tellement signifiante que introduire du mouvement là-dedans, c'est presque passer à la scène d'après. Mmh. Or, pour elle, un dialogue se fait dans une forme d'immobilisme. Et quand on le voit bien, par exemple, c'est chez Agrippine qui est une agitée, qui est toujours avec ses copines, enfin bon, ça bouge beaucoup, Agrippine, beaucoup plus que dans Les Frustrés. Elle a ce poids des mots, c'est-à-dire de situations qui pèsent comme ça.
Et sur les corps, presque.
C'est du théâtre, en fait. C'est-à-dire qu'on est sur une forme très contemporaine à l'époque et très nouvelle de théâtre qui met en scène les personnages dans un décor minimaliste. C'est le cas ici. C'est très intéressant que Jeanne Pujol ait distingué, en fait, l'image des mots précisément. Parce que cette répétition des personnages ne prendra son sens que lorsqu'il y aura une variation. Et tout d'un coup, et cette variation doit être l'apex, si vous voulez, du signifiant. Et tout d'un coup, nous sortir de ce que nous croyons pouvoir comprendre de la scène, avec cette dernière petite chose, nous voyons la chose à l'envers. Et c'est ce qu'elle arrive à faire. Et c'est ça le nonsense aussi, et c'est ça le... C'est-à-dire avoir une chute qui nous démontre la vanité absolue, l'absurde de la chose. Et là, on voit bien, elle lui dit, bon, finalement, elle lui dit rien, et en même temps, c'est parle toujours. Et lui, ne voit rien parce qu'il est pris dans son...
Peut-être truc. On peut donner l'exemple en le précisant davantage. Donc, c'est une planche qui s'appelle Salle commune. C'est un couple qui est au lit. L'homme a les bras derrière la tête. Et puis, on a l'impression, si on regarde très, très, très vite fait, que c'est qu'un couple lit. Puis, en fait, quand on se penche un peu plus, l'homme est quasiment, lui, immobile. Mais la femme, en revanche, va avoir, en écoutant cet homme parler, des contorsions de visage de plus en plus... difficile, délirante, presque monstrueuse, irrépressible, parce que d'une part elle ne parle pas, parce que d'autre part peut-être elle s'ennuie, puis lui il déroule. Je me demande comment tu peux supporter quelqu'un d'aussi malade que moi, le plus grand maniaco-dépressif du siècle, en complet schizo à la limite. Il y a des moments où je me sens tellement enfermée en moi-même, etc. Et puis elle en peut plus, et à la fin c'est peut-être que tu es mon balancier.
Mais c'est, je crois que cet exemple-là est tout à fait typique de ce que fait Bretéché dans ses narrations. C'est-à-dire qu'on a un personnage qui écoute, qui fait la thérapie pratiquement de l'autre, hein, qui est pris comme une espèce de surface
De projection.
De projection, parce qu'il faut se lâcher, il faut se vider ce qu'on a à dire, souvent d'ailleurs sur d'autres gens, c'est dans le cas des Frustrés, on le voit, mais dans très nombreuses bandes dessinées, c'est ça. Dans Agrippine, on a les personnages qui sont très agités, c'est beaucoup plus bruyant parce que c'est des ados, mais dans Les Frustrés ou dans Le Bobologue, par exemple, le docteur Ventouse, c'est finalement, pourrait tout à fait avoir la posture de la femme, c'est-à-dire qu'on est devant une société où les gens, il y a des gens qui ont sans arrêt besoin de parler.
Et qui ont sans arrêt la parole.
De se caractériser, de se problématiser en quelque sorte, et qui, bien sûr, sont dominants par leurs paroles, de se disséquer, etc. Et les autres sont simplement là pour leur, comme une surface de réflexion, pour faire écho. Et effectivement, elle, ce qu'elle montre, c'est que non, il y a aussi une conscience dans l'autre personne, qui a aussi un esprit critique.
Et éventuellement un truc à dire.
Et une énorme patience. Et ce rôle-là, c'est typique des femmes qui sont comme par exemple les femmes d'artistes qui sont toujours à l'écoute de ce que leur même si elles sont artistes elles-mêmes, on leur demande pas à ce moment-là de s'épancher, il faut qu'elles soient là à disposition. On en connaît de très nombreux exemples.
Les femmes, justement, on va écouter une nouvelle archive de Claire Bretéché. Elle parle de son dessin du corps des femmes. C'est dans les entretiens à voix nue, diffusés en 1996 sur France Culture.
Il y a une convention dans la BD, le dessin d'humour, qui fait que, bon, prenez si vous voulez Astérix, les jolies filles jeunes, c'est Barbie, hein, c'est la poupée Barbie. Et puis, aussitôt qu'elles ont 40 ans, ou même moins, ce sont des rombières, c'est des mégères. Et elles se mettent à ressembler complètement aux hommes. La femme d'assurance Torix a exactement dessiné comme les hommes de la tribu. Alors, je ne vois pas pourquoi cette espèce de discrimination. Tout d'un coup, une espèce de poupée idiote quand on est jeune et une mégère quand on est vieille. Alors, moi, j'ai fait une espèce de synthèse entre les deux. Pourquoi ? Puisque, de toute façon, cette espèce de façon grossière de dessiner en BD ou en dessin d'humour pour que ce soit simple, pour que les que les expressions soient faciles à changer, etc., et que ce soit vite fait et compréhensible. On leur fait des gros nez, on fait deux points pour les yeux, etc. C'est la convention du genre. Alors pourquoi ne pas l'utiliser pour les femmes et uniquement pour les hommes? Ça n'a pas de sens. Ou seulement pour les femmes vieilles. En plus, le fait de dessiner une poupée Barbie suppose qu'elle n'ait aucune expression, donc aucune vie, donc aucune personnalité, évidemment. Alors ça, c'est idiot.
Ça, c'est sûr qu'on ne peut pas dire qu'elle dessine des poupées Barbie. Claire Bretéché, ici, en 1996, sur France Culture. Louison, qu'est-ce qu'on peut dire de ces dessins des femmes tout au long de son œuvre dessinée et écrite? Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça produit? Qu'est-ce que ça produit de nouveau aussi dans la bande dessinée?
Bah, on parlait tout à l'heure des corps dans Les Frustrés, de ses postures et de tout ce qui transcendait dans son dessin. Moi, je trouve que ce qui est fascinant et qui fait qu'effectivement il faut tous les ans se replonger dans son œuvre. Exactement, c'est qu'en fait il y a un dessin de la dégaine, pas de la posture, mais de la dégaine, et qui est quelque chose de beaucoup plus évanescent quelque part. Une dégaine, c'est vraiment ça tient parfois à une veste qui va tomber d'une certaine façon, d'un corps qui est pas. Déjà il y a tous les corps qui sont dessinés chez Bretéché, donc rien que ça, c'est non seulement c'est pas une poupée Barbie, mais en plus il y a des petites, des grosses, des moches, enfin il y a tout. Donc il y a en plus cette espèce de d'universalité des corps, parce que justement il y en a pas un qui se ressemble et que en fait tous sont de toujours un peu mal attifé, toujours un tout petit peu. Il y a un dessin que j'adore, moi, de Bretéché, où il y a. Donc, je pense d'ailleurs que c'est un. Non, c'est peut-être pas Agrippine encore, mais elles sont quatre copines comme ça sur un banc. Effectivement, c'est des dégaines pas possibles. Enfin, Hélène qui dit on serait belle, on se ferait chier. Et je trouve que c'est tellement.
J'adore
phrase. Ce dessin parce que c'est exactement ça. Alors que Bretéché est sublime. Elle est donc sublime, voilà. Mais elle arrive à se mettre quand même dans un rapport au corps et dans un rapport à ce que les femmes renvoient, qui dit on se ferait chier. Enfin, et donc, le corps des femmes, il est dessiné par Bretéché de façon extrêmement.
Mais elle cherche quoi? Elle cherche une forme
un réel.
De... Oui, un réel ou une réalité. Il y a aussi quelque chose dans sa manière de dessiner les femmes, de dessiner le rapport à la maternité, le rapport aux enfants, le rapport à des conversations qui n'ont plus lieu, à des couples qui se délitent, au désir, au cerne. Il y a toujours, je sais pas, genre 4-5 traits sous les yeux pour dessiner les cernes. C'est aussi des corps qui sont fatigués. C'est ça qu'elle cherche, une forme de, un peu des vrais corps de femmes.
Bah, on parle toujours du male gaze. Là, on est dans l'inverse. C'est-à-dire que là, non seulement il y a un truc qui est très fort dans les dessins de femmes de Bretéché, c'est que ce sont des femmes qui ne sourient pas en général, parce qu'elles ont autre chose à foutre en fait que de sourire. Il n'y a pas de raison de sourire dans une société qui vous oppresse en permanence. Et je trouve que c'est moi j'ai vite pris l'habitude de prendre ce dessin comme chez Agrippine, là, les yeux un peu mi-blasés, mi-énervés, parce qu'on sait qu'on va être contrarié en pas très longtemps et que donc on prend un peu d'avance. Et je trouve que c'est ça qui est très qui est incroyable dans tous ces dessins, c'est que les femmes sont telles qu'elles sont. Alors oui, personne ne ressemble à un dessin vraiment de Bretéché, mais on connaît tous quelqu'un qui ressemble à un Bretéché.
Oui,
moi, j'ai plein de noms dans la tête de gens que je connais dans la vraie vie qui ressemblent à des Bretéché, parce que justement, il y a tout d'un coup dans la dégaine, dans l'allure, quelque chose qui a l'air d'être un dessin animé, en deux mots, de ces planches à elles.
Mais en tout cas, c'est sûr qu'on ressemble plus aux femmes dessinées par Claire Bretéché qu'aux Barbie dont elle faisait mention là, en parlant des jeunes femmes dessinées dans Astérix qui sont parfaites.
Ou Natacha, hôtesse de l'air. Enfin, personne ne ressemble à Natacha, hôtesse de l'air, et heureusement. Mais je trouve qu'il y a...
Pour vous, c'est la signature d'un regard féminin sur les corps féminins. Pour c'est reprendre ce male gaze qui est l'idée, justement, en anglais, de parler du regard porté par les hommes sur le monde et sur les êtres.
C'est en tout cas la signature de le corps des femmes ne doit pas être un sujet, en fait. De pas être un sujet d'observation, un sujet de réflexion, un sujet de critique. Enfin, le corps des femmes est comme il est, comme le corps des hommes est comme il est. Et qu'il n'y a pas de raison de les faire toutes rentrer dans un moule, même en représentation comme ça, graphique. Et qu'en fait, ça ne devrait, comme on parlait tout à l'heure du fait qu'elle était une femme parmi les hommes quand elle est arrivée, et que ça ne devrait pas être un sujet, bah le
mais
corps des
un
femmes...
sujet, moi, je trouve, Louison. Je suis
pas d'accord. Ça ne devrait pas. En vrai,
mais
ça devrait être...
Mais c'est un sujet, c'est passionnant. C'est-à-dire, comme vous dites, si on était belle, on se ferait chier, mais c'est un sujet précisément, c'est un sujet passionnant. Moi, je ne trouve pas que c'est un non-sujet, le corps des femmes chez Bretéché.
Non, ce n'est pas un non-sujet. Ce qui est non-sujet, c'est le fait d'être une femme parmi les hommes. Ça, c'est un non-sujet. Enfin, ça devrait être un non-sujet. Non, le corps, il est incroyable, parce que justement... Elle raconte le corps des femmes avant une maternité, après une maternité, le corps des femmes qui en fait sont justement quand elles disent si on serait belle, on se fraîchait, c'est parce qu'en fait on y penserait toute la journée à être belle. Donc là au moins elles ont autre chose à foutre. Donc c'est sûr que le c'est ça qui est alors oui, il y a des gros nez, il y a des choses comme ça qui sont, comme elle le dit, un gros nez et deux points, c'est le
genre
voilà.
Aussi. Oui, c'est des codes.
Mais c'est quand même on a l'impression de les croiser dans la vraie vie, ces femmes.
Et elle dit il faut pouvoir les utiliser indistinctement, et ça c'est intéressant. Qu'est-ce que ça apporte, ce dessin, Anne-Hélène Hoch, dans l'histoire de la bande dessinée, spécifiquement sur la représentation du corps des femmes, des jeunes filles et des petites filles?
C'est totalement innovant.
Ça ne se faisait pas avant.
Mmh. Elle est la première
à faire cette proposition de, je dirais, d'un corps réel, parce que il faut quand même rappeler que l'idée des femmes complexées, les femmes qui vont qui se posent des questions beaucoup sur leur performance, leur capacité d'être des super nanas et en même temps d'une efficacité à toute épreuve. Les femmes telles que le magazine Elle, par exemple, pendant très longtemps, nous disait elle fait sa gymnastique le matin en se mettant du mascara, elle monte sur la pointe des pieds.
Ça me fait penser à la planche œil de lynx où elle essaie de se mettre une lentille, de se foutre du mascara et en même temps de répondre à un truc.
En fait, c'est le grand thème de l'époque. Pourquoi elle attaque avec cellulite? Parce que précisément, tous les magazines vont commencer à poser la question du corps des femmes, et du corps des femmes et du complexe des femmes. Puisque s'il y a une chose... Avant, on ne les voyait pas. Les femmes étaient à la maison, elles étaient habillées d'une façon très classique. Elles se ressemblaient peut-être pas toutes, mais en tout cas, il y avait comme ça des normes de vêtements. Or, avec 68, et après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Et il va y avoir donc les femmes bulles, les femmes... non, mais dans l'habillement, etc., on a le droit. Il y a eu une période d'une licence extraordinaire où on pouvait tout essayer, selon le milieu dans lequel on se trouvait. D'ailleurs, on était obligé de tout essayer. Les femmes comme les hommes. Ce corps des femmes, tout d'un coup, devient visible aussi pour une autre raison, c'est que de plus en plus de femmes rentrent dans le monde du travail.
Et elles apparaissent dans l'espace public.
Exactement. Et donc là, il y a la question du quotidien qui va se poser. Ce n'est pas seulement la sortie pour aller faire les courses. Hein. Et je ne veux pas être d'ailleurs méprisante en parlant des femmes qui sortent pour aller faire les courses.
Absolument.
Parce qu'il faut les faire. Mais moi, je me souviens avoir eu des collègues qui passaient, qui travaillaient et qui en même temps téléphonaient pour parler à la personne qui allait chercher leurs enfants à la sortie de l'école ou à la voisine ou à leur mère pour vérifier ce qu'il y avait dans le frigo, pour savoir ce qu'elle devait rapporter. Vous n'avez pas les hommes qui font ça quand ils sont dans les bureaux. Et c'est ça qu'elle montre aussi. C'est-à-dire que les femmes sont convoquées 24 heures sur 24 à gérer à la fois la vie de famille et la vie professionnelle. Et donc, en même temps, il faut qu'elles arrivent à faire abstraction de leurs propres désirs. Et c'est précisément là que se pose le problème. Et c'est là qu'elles chopent, en quelque sorte, qu'elles attrapent
la dissonance.
La dissonance. Et donc, ces femmes qui ont, pour la plupart, vous avez en fait... On va dire grosso modo à peu près deux types de femmes chez Bretéché. C'est pas les femmes et les jeunes et les vieilles. C'est les femmes qui, je dirais les toutes belles ou les pépettes en quelque sorte, hein, qui comme Monique par exemple dans une saga génétique, le dessin de Monique, hein, qui est toujours voilà, ou dans Moulet démoulé, etc. C'est-à-dire ces filles qui font toujours sur leur 31, très attentives à leur poids.
Celles qui cassent la porte.
Voilà. Et puis celles qui n'ont pas le temps. Qui n'ont pas le temps, qui doivent gérer trop de choses et qui sont un peu des glingues, quoi, finalement. Et elles montrent des femmes qui sont toujours sur la corde raide. Et je trouve que c'est très intéressant de voir que ça correspond à la période aussi. On a fait aussi Femmes au bord de la crise de nerfs,
je vais dire, ouais.
Talons aiguilles, ouais. Etc., etc. C'est-à-dire ces femmes qui veulent tenir
ça tire
les
dans trop de sens,
voilà, exactement.
Et ça lâche.
Et qui arrive à un moment à avoir on dirait aujourd'hui une dépression, mais c'était même pas ça. Voilà. Et c'est d'ailleurs un dessin opposé à celui d'Annie Götzinger, qui parle aussi, qui est aussi à mon sens très féministe, contrairement à tout ce qu'on dit, mais qui est très classique et qui montre des filles jolies, qui sont toujours avec des beaux corps, etc., un petit peu copiées les unes sur les autres, à la façon dont les hommes le racontaient, sauf que, bon. Mais Bretéché, l'image fait sens complètement.
On y revient, c'est quasiment une des premières choses que vous avez dites dans cette conversation. Le book club continue, je dis juste que dans ce grand ouvrage L'art de Bretéché, il y a toute une dernière partie qui est consacrée à son art un peu plus secret que celui de la peinture et qui est aussi très beau à regarder.
France Culture, le book club, Marie Richeux.
Et le Book Club continue en prenant des nouvelles comme chaque semaine du livre en dehors de nos frontières grâce à la rédac internationale de Radio France. Aujourd'hui, on se rend en Afrique du Sud avec vous, Claire Bargelès. Bonjour Claire.
Bonjour.
Vous nous racontez comment dans le pays et sur le continent tout entier, le courant littéraire de la science-fiction continue de faire des émules, Claire.
Oui, et ce n'est pas un courant nouveau. La référence, ce sont les romans de la fin du XXe siècle de l'autrice américaine Octavia Butler, considérée comme la mère de l'afrofuturisme. Les outils de la science-fiction et l'invention de futurs dystopiques lui ont permis d'aborder le racisme et le féminisme sous un autre prisme. Alors, le terme d'afrofuturisme est aujourd'hui controversé, certains l'embrassant, d'autres le rejetant, car le considérant comme trop réducteur et figé. Et le mouvement prend beaucoup de formes différentes et sort de son cadre. Mais le travail d'Octavia Butler a en tout cas laissé de nombreux héritiers et héritières qui démontrent qu'une autre science-fiction existe au-delà des classiques écrits par des hommes blancs et qu'il est possible de penser le futur et d'entremêler contre-culture noire, technologie et fiction spéculative. Parmi les figures francophones, on peut entre autres citer l'écrivaine franco-camerounaise Léonora Miano ou encore l'autrice Laura Mtsafou.
Et le genre se déploie surtout et avant tout au sein de la communauté des écrivains anglophones, pardon, qui sont évidemment liés au continent clair.
En effet, par exemple, l'écrivaine Nnedi Okorafor, une Américaine née de parents nigérians, est la digne héritière d'Octavia Butler. Elle est connue en France pour « Qui a peur de la mort ?», récit qui nous plonge dans une Afrique post-apocalyptique, ainsi que pour sa série de romans initiatiques Binti et son université interstellaire. Nnedi Okorafor vient récemment de faire paraître la mort de l'auteur et elle explore les relations entre art et intelligence artificielle, avec, dans une mise en abîme, une autrice de science-fiction qui imagine une Afrique de l'Ouest peuplée de vieux robots et d'intelligences fantômes, d'où les humains ont quasiment disparu. Sur le continent africain aussi, le genre fleurit. On pense notamment au Nigérian Suyi Davis Okumboa et ses écrits de fantasy africaine, ainsi que la Botswanaise Tlotlo Tsamase et son monde où les consciences humaines ne meurent pas et peuvent être réimplantées sur d'autres corps.
Et dans le pays où vous vous trouvez aussi, en Afrique du Sud, Claire, plusieurs autrices et auteurs s'intéressent à la fiction qu'on appelle spéculative.
Tout à fait, et notamment l'auteur sud-africain Masane Tshanga, 39 ans, déjà couronné de 2 prix littéraires, avec son roman Triangulum, sorti en 2019 et qui n'est pas pour l'instant traduit en français. Il navigue entre science-fiction, philosophie et sociologie. Dans ce livre, structuré comme un manuscrit retrouvé, on y suit par fragments la vie d'une jeune femme hantée par la disparition de sa mère et d'étranges visions. Elle se retrouve prise dans une quête pour changer l'avenir de la planète avant qu'il ne soit trop tard, le tout dans une Afrique du Sud fracturée qui ne parvient toujours pas à se reconstruire complètement après la fin de l'apartheid. Le récit s'étend des années 90 jusqu'à 2040 et y couvre donc le passé ainsi qu'un avenir assez proche.
Et ce futur proche qui lui permet avant tout, bien sûr, de parler des cicatrices de la société sud-africaine.
Oui, car tous ces écrits que l'on a évoqués de science-fiction et d'invention de mondes imaginaires vus au travers du prisme africain, ils ont pour la plupart une portée hautement politique. Et c'est aussi le cas pour Triangulum. Masane Tshanga explique qu'il n'a pas eu besoin d'aller très loin pour imaginer un futur sud-africain dystopique, puisqu'il lui a suffi de regarder le passé de son pays et les exemples d'oppression, de la colonisation à l'apartheid, pour avoir une idée de ce à quoi un futur qui tourne mal pourrait ressembler.
Merci beaucoup Claire Bargelès, Lecture sans frontières à réécouter sur franceculture.fr. C'est l'heure du grand jeu des pages musicales, on joue avec vous à chercher à trouver de la musique dans les livres. Aujourd'hui c'est Léa qui nous propose un extrait d'un livre qui s'appelle « Aucun respect » paru chez Stock en 2024 et signé Emmanuel Lambert. Rob Griel attendait en bas de chez elle à l'aube. Au volant d'une Alfa Romeo grise, ils avaient pris l'autoroute A13, le chef conduisait bien trop vite en écoutant Greatest East Gold d'Abba à fond. Gimme, gimme, gimme a man after midnight. Entre deux scies de musique disco hors tourbillon, elle avait essayé de se concentrer sur les trois ou quatre choses relues avant son départ. Want somebody help me chase the shadows away. Écriture blanche, nouveau roman, cinéma, car elle venait d'apprendre que Rob Grier avait réalisé des films. Gimme, gimme, gimme a man after midnight. Il roulait de plus en plus vite. Elle avait fini par articuler qu'elle avait peur en voiture. Il l'avait fixée de l'un de ses deux yeux. Elle ne savait toujours pas comment accrocher la direction de son regard et avait répondu, d'une voix faible et voilée, qu'il était désolé. Ils avaient continué en silence. Abba diffusait sa musique pailletée. On aurait dit deux personnages timides, occupés à sirouter de l'eau glaseuse au bord d'une piste et que personne jamais n'inviterait à danser. Thank you. Merci infiniment toutes les deux d'avoir été avec nous, Anne-Hélène Hogg et Louison, pour évoquer trop rapidement, évidemment, Claire Bretéchet. Il y a L'art de Bretéchet qui est paru chez Dargo, un gros et beau livre. Il y a aussi cette exposition que l'on peut voir au musée de la bande dessinée à Angoulême, c'est jusqu'au 8 mars 2026. Au son, aujourd'hui, c'était Mineta Diawara et à la réalisation, Vivien Demeyer. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club, notamment Mathilde Wagman aujourd'hui.